bonjour à tous. Avant la grande table d'été, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à de nombreux messages d'auditeurs qui se sont manifestés ces derniers jours. Pour répondre, deux personnes sont avec moi en studio. Jérôme Rousse Lacordaire, producteur de La Messe, diffusée tous les dimanches sur l'antenne de France Culture, et Vincent Lemaire, délégué au programme. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour Jérôme. Alors commençons par un rapide rappel des faits. Le dimanche 15 juillet, la messe radiodiffusée était retransmise depuis la cathédrale d'Avignon. L'homélie a été prononcée par l'archevêque d'Avignon, Jean-Pierre Quatennens. Cette homélie débutait sur un rappel d'un des thèmes du festival d'Avignon cette année, le genre. S'en sont suivis des propos qui ont été jugés choquants, voire discriminatoires par de nombreux auditeurs. Propos sur les personnes LGBT, sur le mariage de personnes du même sexe, sur l'avortement, enfin sur la panthéonisation de Simone Veil. Alors suite à la diffusion de cette messe, nous avons donc reçu beaucoup de messages d'auditeurs depuis 10 jours, puis les réactions ont gagné les réseaux sociaux et jusqu'à des articles de presse ces dernières heures. Jérôme Rousse Lacordaire, vous êtes le producteur de la messe radiodiffusée. Peut-on repartir du cadre général? Décrivez-nous ce principe, le principe de ce programme, de cette messe radiodiffusée.
Donc la messe catholique, dans le cadre du cahier des charges de Radio France, est, comme d'autres émissions à caractère religieux ou philosophique, diffusée le dimanche matin et elle l'est en direct. Elle est placée sous la responsabilité de la hiérarchie catholique, c'est-à-dire de la Conférence des évêques de France, qui désigne un ou plusieurs représentants. Actuellement, c'est donc moi, comme vous l'avez rappelé, pour organiser ces messes en concertation avec la chaîne.
Alors, la particularité de cette messe radiodiffusée au sein de ces programmes religieux, c'est donc que c'est une cérémonie cultuelle, alors que d'autres de ces émissions religieuses sont plutôt des programmes de connaissance du fait religieux. Alors, que s'est-il passé, Jérôme Rousse Lacordaire, le 15 juillet à Avignon? Étiez-vous au courant du contenu de l'homélie prononcée par Mgr Quatennens?
Alors, le 15 juillet, nous étions à Avignon, comme je crois depuis 1968, dans le cadre du Festival d'Avignon, pour une messe radiodiffusée. Pour cette année, la messe était prévue depuis plusieurs mois et devait être présidée par le recteur de la cathédrale, le père Brayer, qui devait aussi assurer la prédication, comme il le fait depuis plusieurs années. Une dizaine de jours avant la messe, le père Brayer m'a averti que ce serait Mgr Quatennens qui présiderait et qui prêcherait, je crois que c'est d'ailleurs pour la première fois. Et comme le délai était court et que qui plus est, il est légitime qu'un évêque préside et prêche dans sa cathédrale, je n'avais aucune raison de m'y opposer a priori, d'autant que j'ignorais le contenu de son homélie. Et que, mais ça c'est de ma faute, j'ignorais aussi le thème du Festival d'Avignon.
Et donc, rappelons que cette messe est radiodiffusée donc en direct. Alors vous-même, vous avez été interpellé, Jérôme Rousse Lacordaire, par des auditeurs, par des gens qui étaient présents dans la cathédrale d'Avignon. Quelle réponse avez-vous donné à ces auditeurs qui ont été heurtés par ces propos tenus dans cette homélie?
Il y a eu effectivement des gens présents à la messe ainsi que des auditeurs qui m'ont écrit pour me faire part, comme le disait l'un d'entre eux, de leur indignation et qui ont regretté qu'on assène des condamnations plutôt que d'essayer de comprendre, ça concernait surtout l'avortement, des situations qui étaient peut-être parfois très douloureuses, alors que leur répondre à eux ainsi qu'aux auditeurs non catholiques, d'abord que je regrette profondément que la messe, qui devrait plutôt apporter du réconfort et suscité du scandale, et je l'ai pris de m'en excuser. Mais malheureusement, je ne pouvais que très difficilement intervenir en direct dans le cadre d'une cérémonie religieuse. Et j'ajouterai que Mgr Quatennens a terminé son homélie par un appel à la fraternité et à l'amour, même avec ceux qui ne partageraient pas ses opinions, et il y en a beaucoup. Et j'espère et je crois que les autres prédications des messes radio-diffusées, une soixantaine par an, vont clairement dans le sens de cette fraternité humaine et du respect des auditeurs.
Je vous remercie Jérôme Rousse Lacordaire et j'ajoute que notre directrice, la directrice de France Culture Sandrine Trainer, a demandé par courrier un rendez-vous au président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier. France Culture, 12h49, il est temps de reprendre le fil habituel de nos programmes avec la grande table d'été et avec vous Maëlys Besserie.
Merci Vincent Lemaire, c'est parti. Des Des machettes qui s'amoncellent comme les corps qu'elles ont fait tomber. Des armes pointées vers le ciel, impuissants face au chaos. Des regards meurtris par la maladie ou la faim. Voilà les photos capturées par James Natchway et exposées à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 29 juillet. Des photoreportages qui ont traversé les grands conflits du siècle et se sont fait des témoins de l'universalité des souffrances humaines face à la guerre et aux cataclysmes. Les Balkans, l'Irak, le Rwanda, l'Indonésie, Haïti, les États-Unis, la Grèce, tous ont été tour à tour le théâtre de fléaux, de drames humanitaires. Le travail de Natchway porte les traces de cette actualité tragique et par son art l'emmène jusqu'aux portes de l'histoire. Puis nous continuerons à parler de récits et de mémoires avec la romancière Violaine Huissement qui fait paraître cette année aux éditions Gallimard son tout premier roman, Fugitive parce que reine. Nous allons parler de photographie de guerre en compagnie de Laurie Hurwitz, commissaire de l'exposition Memoria de la Maison européenne de la photographie. Bonjour.
Bonjour.
Et de Dimitri Beck, directeur de la photographie du magazine Polka. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour. Quand on parle de photoreportage, de photographie de guerre, on parle au final d'un art qui est aussi ancien que celui de la photo.
La représentation.
Dimitri
Illustrer, illustrer ce que l'on voit et être dans le récit de l'image, le récit de la photographie. Et c'est bien là tout le propos d'ailleurs d'un photographe, tenu par un photographe comme James Natchway, qui nous raconte véritablement des histoires, le drame. Les drames de l'humanité en images.
Alors vous dites Natchway, on ne sait pas. Vous dites Natchway.
Oui.
Alors en tout cas,
James... c'est vrai qu'il est américain.
Il est américain. James Natchway, son travail est saisissant, notamment de par la manière dont il a été mis en lumière dans cette exposition. C'est-à-dire que on enfile les salles les unes après les autres et les théâtres d'horreur. Il y a quand même ces photos très très difficiles, où à peu près 200 photos sont exposées je crois.
Il y a 139, ainsi qu'une très grande fresque de 60 images qui font un ensemble d'une œuvre conceptuelle, on peut dire.
Et on parle de photoreportage, mais on voit de très belles photos, de très grandes photos parfois exposées dans cette exposition. Alors, quelle était justement l'idée, la manière dont vous avez pensé justement les exposer? Il y a quand même ces salles noires particulières,
hein,
la Maison européenne de la photographie.
C'est tout à fait la partie prise de James Natchway, justement. On a travaillé, donc je suis le co-commissaire, nous avons travaillé également avec Roberto Koch de Contrasto, et une première plus petite version de cette exposition a été présentée à Milan en hiver. Mais la façon dont les œuvres sont présentées, c'est tout à fait James Natchway qui l'a voulu comme ça. Il voulait décontextualiser les images qui sont habituellement montrées dans les magazines, dans Time notamment, aux États-Unis.
Décontextualiser parce qu'il n'y a pas notamment de légende et de date.
À cause d'abord du format, parce que ce sont des œuvres de très grand format, et deuxièmement parce qu'il n'y a pas de légende. Il y en a quand même un petit livret qui accompagne l'exposition, dont tous les textes étaient écrits par Jim Natchway. Mais il voulait d'abord que le public rencontre les gens dans ces photos. Lui-même, le photographe, souhaitait s'effacer, mais il voulait que ces œuvres soient pas comme des œuvres d'art, mais comme une forme de communication, qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé et qu'on soit obligé, en quelque sorte, de regarder ça en face.
Alors, il y a une sorte de géographie mondiale, d'atlas réunie par ces grandes photographies, Dimitri Beck, et ça pose toujours cette question de l'actualité, de finalement la manière, les images qu'on saisit, les images que l'on montre, et la manière aussi dont on les saisit. Il y a des photos aussi de victimes, d'enfants, il y a des photos de charniers. Il y a des photos extrêmement difficiles qui peut-être seraient parfois censurées dans la presse, peut-être l'ont été. Dimitri Beck, comment est-ce que justement on se positionne par rapport à cette histoire du photoreportage qui a évolué aussi dans le temps?
Il a évolué et c'est vrai, comme vous dites, hein, c'est une exposition très dure, il faut le reconnaître. Et d'autant plus dure qu'on se prend en pleine face toute cette violence, que ce soit des photos de guerre, des charniers, mais les autres guerres dont on parle moins, la famine, les maladies, le sida, la tuberculose, des sujets sur lesquels, ces pandémies sur lesquelles James Nashway s'est porté et a travaillé beaucoup et pendant de nombreuses années. Alors, oui, ces photos sont violentes et c'est là où c'est très difficile parce que, comme a rappelé Laurie, il n'y a pas de légende adossée à ces photographies qui sont en très grand format.
Ah, il y a le lieu quand même, hein. Il y a le lieu.
Voilà, exactement. On arrive à se situer. Alors, c'est le Rwanda, c'est la Bosnie, l'Irak. On a des repères comme ça. Il y a le 11 septembre aussi, puisqu'il était là au moment où il y a eu le drame du 11 septembre à New York.
Par hasard, parce qu'il vivait là-bas.
Absolument.
C'est incroyable.
Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi en scénographie. Laurie, avec Roberto Koch, le co-commissaire, cette volonté de mettre le 11 septembre à côté de l'Afghanistan. Voilà, c'est la réponse à ce qui s'est produit le 11 septembre. Donc, il y a véritablement cette projection, cette envie de raconter quand même encore des histoires sur les murs, sur les cimaises de la MEP, si ce n'est que tout est décontextualisé. On voit des horreurs, des duretés, des moments difficiles qui ont marqué notre mémoire, mais qui datent pour certains d'il y a 20 ans, 30 ans. Et à des moments, on peut être un peu perturbé de ça, parce qu'on n'est pas dans les pages d'un magazine à feuilleter, à voir le titre, la mise en condition, le contexte, l'article et les légendes pour nous raconter tout ce que l'on voit et comprendre ce que l'on voit. Donc on est parfois un peu livré à soi-même, face à ces photos qui sont très fortes, très prenantes.
Et face à sa mémoire, Laurie Hurwitz, c'était peut-être l'idée aussi de rendre le visiteur actif. Il doit lui-même chercher dans sa culture générale, dans sa mémoire aussi de cette actualité qu'il a souvent connue, puisque c'est aussi une actualité récente que l'on redécouvre, ses souvenirs de ces orphelins roumains, de ces massacres au Rwanda, de ces guerres des Balkans, de cette mémoire de la deuxième partie du XXe siècle, qui remonte au fur et à mesure par fragments, aussi tout, pour le visiteur.
Tout à fait. Et il est vrai, on a mis sur le mur que l'endroit, ni pas de date, et c'est un peu chronologique, mais pas vraiment. Et tout à fait, je pense, est fait dans un mouvement de voir ces 40 ans de mémoire, la mémoire de James Nashway, mais aussi la mémoire collective, qu'on soit conscient de ce qui s'est passé, que c'est pour lui un tout. Il parle de 11 septembre, par exemple, comme épiphanie, qu'il réalise que lui-même, en tant qu'Américain, ils étaient en guerre et qu'il y a un lien entre tout ce qu'il avait photographié avant et après, que pour lui, c'est une immense image en tout de toutes les atrocités, toutes les choses que l'homme peut faire à l'homme.
Alors, il y a une sorte d'impression un peu biblique qui apparaît quand on le voit. On a l'impression que c'est les plaies d'Égypte, que finalement, au début, l'exposition se déroule sous la forme de lieux. Donc, on a compris, c'est une sorte de géolocalisation du visiteur. Et puis ensuite, ce sont des thématiques autour notamment des maladies, des pandémies. Et là, on a le sentiment que oui, que ce sont les plaies d'Égypte qui se sont abattues, mais dans des régions différentes du monde.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je parlerai peut-être de l'immense œuvre qu'il a réalisée. Il a été blessé par une grenade qui était dans sa véhicule en Irak. Il a été amené dans un hôpital dans des zones de guerre où il a été soigné. Et ensuite, il a décidé de retourner pendant plusieurs mois dans cette même hôpital pour faire des images auprès des médecins. Tellement il a été impressionné par l'équipe médicale, leur grâce, leur générosité, la rapidité avec laquelle ils ont soigné les gens. Aussi, le carnage qu'il avait vu autour de lui, il a décidé qu'une seule image n'était pas suffisante pour raconter la réalité. Donc, il a rassemblé tout ça dans un fresque qui est très impressionnant.
Sur la médecine de guerre.
L'intervention médecine de guerre, comme si on était dans un hôpital de campagne où on voit de façon très crue, concrètement.
Comme si on était médecin, justement. Absolument. C'est vraiment.
Et d'ailleurs, il y a, je crois, 60 images composées ensemble.
Dans un panneau, où elles sont
une composition, tout à fait.
Presque 10 mètres de long, je crois que c'est très long, c'est très impressionnant.
Il y a cette idée d'être à la fois le témoin, mais aussi l'acteur, puisqu'il est partout où se joue le conflit. On va écouter une archive de James Nashway lui-même, qui était interviewé en juin dernier. C'était sur Arte.
Je capture des moments de l'histoire avec un grand H, mais ces moments sont aussi des moments d'humanité. J'essaie de rendre le sens de la compassion que j'éprouve envers les gens que je photographie. un drame qui touche des milliers de personnes. C'est toujours un drame qui touche des êtres vivants, l'un après l'autre. Et j'essaie de transmettre ce qui arrive à chacun de ces individus avec le plus d'humanité possible. Quand vous prenez la responsabilité de vous rendre sur un conflit avec un appareil photo, c'est de votre devoir de faire face à ce que vous allez rencontrer, aussi difficile que cela puisse être, et de malgré tout rester ouvert à l'impact émotionnel qui est très fort. Et la seule chose qui permet d'arriver à ça, c'est de garder à l'esprit son objectif. Il faut croire en l'idée que l'information est un élément essentiel du processus de changement.
Dimitri Beck, on voit que le point de départ, c'est ce travail de journaliste, hein, de journaliste photographe, mais que ça va beaucoup plus loin. L'engagement, c'est la responsabilité de documenter le conflit, de le faire découvrir au public le plus large possible, mais c'est aussi documenter l'histoire. C'est un travail qui est une sorte de vocation jusqu'à la prise de risque ultime pour lui.
Sa priorité est d'être publié, de montrer et raconter ses histoires au public le plus large possible. C'est une des raisons pour laquelle il travaille avec le magazine Time depuis de nombreuses années, parce que voilà, Time, c'est ce grand magazine hebdomadaire américain qui a une diffusion très large, très importante, et c'est son souci premier, primordial à James Nashtway, d'être vu, lu, et de toucher un public le plus large. Après, être exposé, ça arrive ensuite, c'est complémentaire pour lui, c'est un autre exercice de style. Mais avant tout, c'est documenter l'histoire qui s'écrit sous ses yeux et de laisser une trace pour la grande histoire et également. Et c'est, je crois, ça, il est un peu comme un missionnaire. D'ailleurs, il est très impressionnant, il est très, même presque très rigide. C'est quelqu'un qui est pas expansif, il est très calme, très posé quand il parle. On l'a entendu d'ailleurs dans cette archive. Et il est normalement toujours avec une chemise blanche. C'est quelqu'un qui est un peu comme un jésuite d'ailleurs, hein, dans sa rigueur,
comme un moine,
dans sa,
je dirais.
Voilà, comme un moine jésuite. Et d'ailleurs, parmi les jésuites, il y a eu beaucoup de photographes qui ont investi des terrains et qui ont documenté ce qu'ils voyaient fin du 19e et début du 20e. Et
en tout cas, il y a une mission.
Il a une mission. Alors, le côté, la dimension biblique religieuse, il la met de côté. Il ne souhaite pas vraiment parler. Est-il croyant ou pas,
il botte
en touche. Il botte en touche complètement. Mais on se souvient quand même de cette photo incroyable du 11 septembre. Il est au sol. Une des tours est en train de s'effondrer et lui, il regarde en contre-plongée la tour s'effondrer véritablement, toutes les ruines autour de lui. Et il y a cette croix de cette église qui est symboliquement comme ça perchée, comme l'instant est saisi d'une puissance surnaturelle de quelque chose qui est en train de se produire et de marquer son pays.
Laurie Hurwitz, ce que l'on remarque, c'est que effectivement, dans cette vocation, ça fait quand même presque un demi-siècle qu'il parcourt le monde.
Ça fait 40 ans.
Oui, pour justement sur tous les théâtres de conflits. Ça avait commencé en Irlande du Nord, je crois, au moment des conflits de l'Ulster, et il continue aujourd'hui encore à prendre des photos dans des théâtres de conflits différents.
Il ne va plus en guerre, justement. Mais il a ses travaux les plus récents étaient des gens drogués aux États-Unis, où il a fait un immense reportage qui a fait l'objet d'un numéro spécial de Time il y a quelques mois.
C'est toujours un travail
de
terrain.
Et des réfugiés, tout à fait.
Un travail de terrain. Oui. Est-ce que on peut dire que justement la dimension esthétique de son travail, il y a de très belles photos.
Oui.
Il y a de très belles photos, il y a des photos très surprenantes.
Terrible, on peut dire, tout à fait.
Où on se sert de la hanse, de la Kalachnikov pour prendre la photo à travers, où il y a quand même une esthétique qui pose la question de l'esthétisation de la violence et des problématiques que l'on connaît aussi dans le milieu artistique. Alors comment est-ce que on transporte ce travail fait à chaud pour l'emmener justement dans un musée?
C'est un sujet compliqué, effectivement. Je pense que c'est toute l'ambivalence de l'exposition. C'est la grande beauté de ces images avec la couleur, le contraste, la très belle composition. Il est très perfectionniste, Jim Nashtway.
Alors, faut peut-être vous donner quelques indications là-dessus. Il n'y a pas de mise en scène, ce sont des photos spontanées.
Tout à fait.
Mais en revanche, elles sont très, très travaillées par la suite.
Oui, elles sont très travaillées par la suite.
Sur les contrastes, les lumières.
Oui. Et tous ces tirages qui sont présentés à la MEP, James Nashtway lui-même a été présent toute la journée, tous les jours, pendant des semaines dans le laboratoire à travailler ces images.
Donc cette quête esthétique, Dimitri Beck, là, on outrepasse la question du journalisme et du témoignage.
Alors, elle n'est pas incompatible.
Est-ce que c'est la force de l'esthétique?
C'est la puissance. Et d'ailleurs, j'ai interviewé James Nashtway au moment de l'inauguration de son exposition. Et il me disait, le but de mes photos n'est pas qu'elles soient belles. Je ne suis pas à la recherche de cette esthétique, mais je sais la remarquer. La réalité est que beauté et tragédie coexistent partout. Et c'est ça qu'il va attraper.
Mais elle existe pour lui aussi, hein. Il parle de ses cauchemars.
Lui, et c'est ce qu'il dit aussi. C'est que, il dit par rapport, quand on le questionne sur les références à la fois religieuses et la beauté de ses photographies, il dit nous devrions plutôt nous demander pourquoi nous avons cette perception de la beauté. C'est peut-être un mécanisme humain nécessaire pour faire face à la tragédie afin de ne pas lui tourner le dos. Donc d'une certaine manière, on est peut-être capable de regarder l'horreur parce que elle devient accessible parce qu'on est attiré par des codes visuels qui attirent notre attention, qui nous rendent peut-être plus doux ce qu'on est capable de voir.
Donc c'est un moyen de transmission.
Un moyen de transmission et de nous faire entrer et d'être à la limite entre ce qui est acceptable et l'inacceptable. Cette frontière ténue où on peut regarder quelque chose, apprendre, et lui, son métier, c'est d'être quand même avant tout, je le disais tout à l'heure, journaliste, donc de faire passer l'information, d'être capable de la montrer. Donc peut-être c'est son messager, son moyen pour lui, le véhicule de par l'image de faire passer un message, de rendre acceptable ce qui est très dur et ce qui se passe là où il le voit et ce qu'il côtoie.
Sur cette frontière entre l'art et le photojournalisme, on se pose la question dans la presse, on ne publie pas tout. Il y a des photos qui ne sont pas publiées parce qu'elles sont jugées choquantes. Difficile d'ailleurs à l'entrée de cette exposition. Il y a des petits mots qui annoncent aussi que certaines photos sont difficilement soutenables pour un public notamment trop jeune. Quelle est la limite? Quels sont les tabous? Alors est-ce que justement parce qu'on arrive dans un champ artistique, là on peut tout montrer? Il y a des photos d'enfants qui souffrent, il y a des photos de cadavres. Laurie Urvin, comment est-ce que vous avez justement fait le choix de à la fois ce qui était exposé et comment c'était exposé?
À nouveau, nous avons travaillé en étroite collaboration avec James Nashtway, qui lui-même avait des opinions très fortes sur comment les montrer et quelles images présenter.
Alors qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qu'il censure?
Il veut à nouveau qu'il y ait une rencontre entre le visiteur et la photo et que le visiteur puisse avoir une réaction viscérale avant de penser c'est quoi la date, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la situation précise. Il veut qu'il y ait cette communication-là entre le public et la photo. Et même les images les plus difficiles, et il y en a dans la famine, je dirais, pour les tournées orphelins, il y en a des choses très, très difficiles à regarder. Il a la foi en l'humanité, il pense que c'est nécessaire qu'on regarde ça, que lui, il a vu, il était témoin, mais il fait ces images pour les personnes qui sont dans les photographies et que c'est vraiment une obligation qu'on voit ces images-là.
Alors, on se situe aussi dans une période de l'histoire où lui est un enfant de l'après-Deuxième Guerre mondiale, produit aussi de toutes ces photos et toutes ces images qu'a produit le cinéma américain sur le Vietnam, les photos aussi et films hérités de la Shoah, des camps. Peut-être que c'est aussi un travail générationnel
que celui de Nashtway. Il doit porter ça au fond de lui. Faut rappeler qu'il est né en 1948. Il n'hésite pas à rappeler, à dire qu'il a été profondément marqué par toutes ces images de la défense des droits civiques dans son pays. Il a grandi avec ça, il était étudiant à l'époque, par la guerre du Vietnam. Toutes ces images fortes, il faut voir que c'est une des guerres les plus... qui a eu un impact photographique et sur les opinions publiques très forte. Et je pense que finalement, il est héritier de ça. C'est-à-dire qu'il a la profonde conviction,
qu'il faut
aujourd'hui
montrer.
Encore, qu'on peut faire pression sur les politiques, sur la société civile, grâce au travail des photojournalistes en montrant ce qui se passe sur le terrain pour les convaincre de s'asseoir à la table des négociations et qu'à un moment donné, il puisse y avoir un terrain de paix, un couvre-feu. Il y croit profondément, fermement, il lâche rien là-dessus et il se dit il ne faut jamais désespérer.
Ce que va déclencher la photo, c'est aussi le sursaut de conscience collective qu'il va déclencher, le sursaut politique, Laurie Urvin, ce qu'il attend. James Nashtway.
Oui, et je dirais que même quand on lit les textes qu'il a écrits, on voit que à plusieurs prises, il a pu faire des changements dans le monde. Il a pu quand même faire appel aux politiciens, aux hommes politiques ou aux organismes humanitaires pour faire intervenir les gens grâce à ces photos qu'il a publiées.
Alors, il y a une autre forme d'éthique que l'on découvre à travers ces photos lorsqu'on les observe bien, c'est que Peut-être que beaucoup de choses sont montrées, peut-être que beaucoup de choses sont montrées qui ne seraient pas publiées aujourd'hui, en tout cas dans la presse généraliste, mais il y a ce lien avec les sujets des photos. C'est-à-dire qu'on voit qu'on le laisse photographier, Dimitri Beck, c'est une évidence pour celui qui observe la photo. Alors c'est une autre forme d'éthique que d'accepter, finalement c'est celui qui est pris en photo qui décide.
Oui, il décide, mais finalement, je crois que c'est un accord tacite. Ça se produit pas toujours, mais dans certains cas, et je pense que James Natchway fait partie de ces photographes, il est présent, il est calme, il est serein, il est discret, et au bout d'un moment, il s'efface. Les gens, je dirais, les sujets qu'il photographie, au bout d'un moment, et finalement, se rendent compte, oublient qu'il est là et reprennent leur vie de tous les jours et ce qu'ils font habituellement. C'est toujours difficile quand on parle de drame, de guerre, de situation et de famine et ainsi de suite, de se dire... On n'est pas dans la peau du photographe, mais comment faut-il faire? Et ça c'est le cas de conscience du photographe. Quand il est sur le terrain, il est seul face à ça. Il a beau avoir un rédacteur en chef qui a des milliers de kilomètres de là, au moment où le photographe doit travailler, doit faire ses photos, et en relation avec son sujet, est-ce qu'il vit avec des bombes autour de lui ou la dureté de ce qu'il peut vivre, il est seul face à ça, ou elle est seule face à ça, parce qu'il y a autant d'hommes que, enfin, pas autant d'hommes que de femmes, mais il faut rappeler qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont photoreporters sur les terrains de conflit. Eh bien, ces moments-là, c'est cette relation, c'est un engagement de ces photoreporters qui fait la différence, la sincérité de leur démarche, de leur approche, de leur relation avec les gens avec qui ils travaillent, de l'avant, le pendant et l'après, tout ça est important et fait qu'ils peuvent nous rapporter ces travaux là qui nous touchent, qui nous racontent quelque chose et qui peuvent peut-être un jour, on espère, avoir faire prendre conscience, qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'opinion publique.
Si je peux, me permettre juste pour répondre à ce que Dimitri dit, il y a une très jolie histoire que raconte Natchway sur l'homme Hutu qui a tant de cicatrices et une partie de son oreille qui manque et il est resté très longtemps avec lui, très calmement. Il dit, l'homme, il a été tellement blessé dans la gorge qu'il ne pouvait pas parler, mais à un moment, il voyait que Natchway était là, il tourne la tête vers la lumière pour montrer en pleine lumière les cicatrices parce qu'il a compris que Natchway était le témoin de ses blessures et il voulait que cette histoire soit racontée.
Alors à une époque où on a tendance à censurer un certain nombre de photos en se disant qu'elles vont choquer le public qui les regarde, on peut aussi opposer cette question de la dignité que rend la photo, surtout la photo telle que prise par Natchway qui devient un objet esthétique. Je vous propose d'écouter Georges Didier Huberman en parler, c'était dans La Fabrique de l'Humain sur France Culture le 30 décembre 2010.
Dans le cas du film de Samuel Fuller, il s'agit de filmer un rituel funéraire totalement improvisé, en dehors de toute religion, puisque les morts, on ne savait même pas de quelle religion et de quelle nationalité ils étaient. Donc voilà, c'est la réinvention d'une sorte de rituel funéraire, ce qui donne l'occasion à Samuel Fuller de dire que c'était un rituel de dignité. Et mon idée, c'est que, en fait, son activité d'image était intimement liée à ce geste de rendre une dignité aux morts. Il se trouve que, anthropologiquement parlant, le plus ancien sens du mot imago, hein, qui est un usage dans la République romaine, est entièrement lié à la question de la dignité. Chose qu'il faut dire aujourd'hui, puisque la plupart des images qui nous entourent sont totalement indignes, on le sait bien.
Dimitri Beck, alors à une époque où on a tendance à trouver et juger indignes les photos prises justement de personnes souffrantes, de morts, etc. Est-ce que finalement ce serait pas l'inverse, la photo comme linceul, comme sacre d'une certaine manière, en tout cas lorsqu'elle est prise par ce geste de l'artiste?
Si les gens pouvaient mettre autant d'indignité, d'effort, d'énergie pour que les choses bougent, changent et se mettre à la table de négociation, de réflexion pour faire que ce qui est indigne, qu'on montre ce qu'on estime qui est indigne de ce que l'on montre, eh bien là on changerait peut-être les choses. C'est pas le fait de montrer qui est particulièrement indigne. Il y a certaines photos obscènes qu'on peut juger parfois pornographiques, même dans l'horreur. Donc là c'est au rôle des éditeurs photos au moment de publier de faire ce choix. Mais l'indignité, elle est où? Elle est dans ce que l'on voit, dans ce qui se passe. Et c'est ça qui est important de rappeler. Et il faut pas être là, on parle d'une exposition, tout le monde est là, il fait beau, on est à Paris, dans un lieu à peu près en sécurité, malgré une ambiance d'insécurité que l'on connaît. Mais voilà, on risque pas sa vie au moindre détour de rue, donc on a le temps de réfléchir. Eh bien, qu'on prenne le temps de lire, d'écouter ces témoignages-là, et peut-être de repartir avec et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors voilà, chacun a un rôle à jouer, mais c'est là où c'est important qu'il y ait des légendes, d'expliquer le contexte, pourquoi une photo est peut-être si dure et difficile à regarder. Il faut pouvoir l'expliquer, que ce soit à des adultes et a fortiori auprès des enfants.
Laurie Hurwitz, quelques mots juste pour finir. On a le sentiment justement que James Natchway, il a pris ses responsabilités face à l'histoire et face aux lieux dans lesquels il a dû se rendre, et que la photo est une sorte d'antidote face à la guerre.
Antidote, je dirais pas, mais je pense que James Natchway, il se considère pas photographe de guerre, il se considère photographe contre la guerre. Donc je pense que c'est ce que vous dites. Lui, il le dirait pareil.
L'expression d'antidote, elle vient du photographe Alan Mingan.
Ah oui.
Merci Laurie Hurwitz et Dimitri Beck. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui.
Merci à vous. Merci.
Laurie Hurwitz, je rappelle que Mémorial, la rétrospective du travail de James Natchway, dont vous êtes la commissaire, la co-commissaire, est à voir à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 29 juillet. Et Dimitri Beck, le magazine Polka est à retrouver bien sûr en kiosque chaque trimestre, et la galerie Polka est à visiter à Paris au 12 rue Saint-Gilles. Et c'est l'heure du live de la grande table d'été. Aujourd'hui on reçoit Louise Roham. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous allez nous jouer aujourd'hui?
Chanter Mer Noire.
Mer Noire, très bien, on vous écoute, merci.
Tu m'as enlevé un sourire empanté, je ne reviendrai plus te chercher. Tu m'as perdu, l'amour s'est caché, je ne reviendrai plus, jamais, 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 jamais. J'ai évacué, évacué les années, ton cri chanté dur. Les faux bouquets de plastique grossier ne pourriront plus, jamais, 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 jamais. Le jour, la nuit, les plages ont gelé sur la côte bord. Je t'ai cherché, la mort a bondi de derrière les marais. Tu ne reviendras plus, jamais. Devant nos yeux, la plage est vide, comme notre histoire, l'absence hybride. L'absence hybride devant nos yeux, le film est gris. C'est une histoire sans fin magique. Devant nos yeux, devant nos yeux, devant nos yeux, le film est gris. Devant nos yeux, devant nos yeux, devant nos yeux, la plage est vide. Devant nos yeux, devant nos yeux, devant nos yeux, le film est lié. Devant nos yeux, devant nos yeux, devant nos yeux, la plage est vide.
Merci Louise Roham, ce morceau fait partie de l'EP Stargaze qui vient de paraître et vous préparez également une collaboration avec l'artiste Lisa Beck. On pourra vous retrouver le 14 septembre au Valrus à Paris. Merci beaucoup.
France Culture, la grande table d'été par Maëlys Bessery.
Il est de ces personnages qui semblent trouver dans la fiction la place qu'ils n'ont jamais trouvée dans le monde. C'est le cas de Catherine Kremitz, machin truc muche dans le roman Fugitive parce que reine de Violaine Huysmans. L'histoire d'un personnage si haut en couleur qu'il a fallu en passer par l'écriture d'un roman pour vraiment le rencontrer. Violaine Huysmans, bonjour.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas la première à écrire sur la mère, votre mère, une mère qui aurait pu exister ou qui a existé. La mère, c'est quand même un grand sujet de la littérature. Est-ce que ce titre, aux allants un peu proustiens, vient de là, vous, de votre rencontre de lectrice avec des mères décrites dans la littérature ?
Oui, tout à fait. Et je trouve ça très beau la façon dont vous parlez de Catherine Kremnitz, machin, truc muche, comme un personnage qui trouve sa place dans la littérature là où elle ne l'a pas trouvée dans la vie. Et je pense que c'est peut-être un résumé parfait du livre. C'est exactement ce que j'ai essayé d'entreprendre, de raconter sa vie à travers l'exercice de la fiction, de sorte à lui rendre une place qu'elle n'a jamais eue. Et de fait, la littérature autorise ça, autorise à transcender le réel, à transcender une certaine prosaïcité du quotidien. Dans certains cas, ou dans d'autres cas, de l'accentuer, cette prosaïcité, mais d'une façon peut-être poétique, ou en tout cas qui départ de la réalité.
En tout cas, il y a ce travail en trois étapes. Ce livre, il est en trois parties, de taille très différente, et il y a le regard de la narratrice qui parle de sa mère, qui est la petite sœur de la fratrie, qui parle de cette mère-là qu'elle revisite et qui apparaît sous forme de fragments de mémoire. Et là, on est dans une forme d'autofiction où justement le quotidien, la vie matérielle, elle prend une forme totalement romanesque et truculente.
Oui, en fait, je voulais essayer de raconter maman. Et donc maman, c'était nécessairement dans le regard de l'enfant, mais sans emprunter ou sans faire semblant d'être une enfant qui écrit, avec la voix d'une narratrice adulte nécessairement. Mais voilà, d'essayer de rendre compte de cette enfance et de comment maman apparaissait à ses filles quand elle vivait avec elle.
Alors maman, c'est ce qu'il vous en restait à vous pour écrire. Maman, c'est, on pense évidemment à la scène du baiser qu'attend le narrateur de la recherche de sa mère tous les soirs. Il y a d'ailleurs presque une scène en écho dans votre livre avec celle-ci, puisque vous aussi, en tout cas la narratrice, elle attendait le baiser de sa mère le soir, qui va embrasser sa sœur, revient, retourne l'embrasser 100 fois, et ce rituel de l'attente.
Oui, ce rituel de l'attente, tout à fait, il est très proustien. C'est comme ça que commence la recherche, le premier volume de la recherche du côté de chez Swann. Et maman, même le nom de maman, je trouve, est un terme un peu proustien. Dans la recherche, c'est comme ça que le narrateur appelle sa mère dès le départ. Et je crois qu'il mentionne très peu sa mère. Il parle de maman.
Et vous, c'était ça aussi ?
Et c'était ça aussi, oui, c'était ça aussi. Mais je pense que dans Proust, enfin voilà, sans... Pour parler plus spécifiquement de ce qui m'intéresse chez Proust, c'est cet exercice de la mémoire, en fait. C'est d'essayer de retrouver dans la mise en mots des expériences vraiment tactiles, très, très individuel, très, très sensoriel, en fait, à travers la langue.
Alors, la narratrice enfant de cette première partie, elle essaie de comprendre quelque chose, c'est cette relation avec maman. Et la relation avec maman, elle est pleine de trous. Cette mémoire-là, elle est pleine de trous. Alors, elle essaie de rapiécer ces bouts d'histoire. Alors, les bouts d'histoire qu'on lui a racontés, que plusieurs personnes lui ont racontés, les mensonges aussi qu'elle essaie de découdre. Et puis, peut-être le regard qu'en a l'adulte.
Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est comme une espèce de tricot. Donc le souvenir est détricoté et ensuite il faut le retricoter. Et nécessairement, il reste toujours des trous, ou c'est peut-être les trous des mailles du tricot. Mais il y a aussi, comme je viens de le dire, cette expérience sensorielle. Et je pense que dans la mémoire, ce qui reste, c'est aussi voilà, quelque chose de très physique. On se souvient très bien souvent des pièces, des appartements dans lesquels on a grandi. Ou des maisons dans lesquelles on a grandi, et on pourrait y retourner. Et quand on retourne dans ces pièces, on peut sentir à nouveau les odeurs, se souvenir de la couleur des murs, se souvenir peut-être de la vue par la fenêtre. Et donc c'était un peu de ça dont je voulais rendre compte aussi, que ces souvenirs d'enfance sont aussi des souvenirs très sensoriels.
Et c'est là où, d'une manière ou d'une autre, l'écriture bascule dans la fiction, puisque ce sont toutes ces réminiscences d'enfants qui arrivent, et cet âge où le corps de la mère leur appartient aussi encore un peu. Il y a les traces de l'odeur du tabac, de l'alcool que maman laisse dans les draps. Il y a toutes ces odeurs, toute cette manière dont elles enlacent aussi leur mère, qui rejoint aussi le travail d'écriture Violaine Huysmans.
Oui, je voulais un peu inviter le lecteur à essayer de venir chez nous, en fait, d'habiter cet appartement avec nous et d'essayer d'y entrer de façon très, très, très physique. Et effectivement, maman, c'est aussi tous ces souvenirs-là de l'expérience corporelle, de l'expérience de la chair, du toucher, des câlins, des baisers.
Alors maman, c'est de la fiction, puisque la mère que vous décrivez justement dans le roman, elle est au-delà de ce qu'on pourrait écrire pour une fiction pure. Donc on est dans un registre d'autofiction, où finalement, et vous le dites vous-même, il y a une mise en abîme de tout ça, Violaine Huysmans, raconter des histoires, des souvenirs, des faits réels, ça va bien au-delà de l'imagination que pourrait avoir l'écrivain. Tellement la vie était rocambolesque.
Oui, oui, la vie, la réalité dépassait de très loin la fiction. Donc après, il faut que la fiction outrepasse la réalité. Il faut essayer de lui rendre une certaine cohérence qui fasse que le lecteur la trouve crédible. En fait, je crois que ma mère aimait dire que si on mettait ça dans un film, jamais personne ne le croirait. Parce qu'il faut quand même, dans la narration, une certaine cohérence ou une certaine logique narrative, et notre vie vraiment dépasser la fiction.
Alors comment on accède justement avec ce matériau très riche d'une existence à part, alors peut-être qu'il faut en dire un peu plus, il y a une pathologie, on ne sait pas, en tout cas il y a une forme de folie maternelle, une mère qui n'est pas parfaite sur le papier.
Oui, et c'était une mère très extravagante qui avait été diagnostiquée maniaco-dépressive dans les années 80. Je me souviens du terme. Aujourd'hui, on dirait bipolaire, mais à l'époque, on employait ce terme médical-là. Et elle avait effectivement plein de travers au-delà de ses pathologies. Et c'était compliqué de grandir avec elle, mais c'était aussi une aventure complètement extravagante au quotidien.
Et donc, il y a eu cette vie, ce matériau de vie complètement décalé. Et après, il faut que ça devienne un personnage. Alors, on pense à la mère de Proust, on pense aussi à la mère de Romain Gary. On pense à ces grandes mères-là, même de Philippe Roth dans la littérature. Comment est-ce qu'on fait de sa mère un personnage de roman, puisque on n'en reste pas vraiment à ce travail d'autofiction. Il y a une démarche presque de l'ordre de l'enquête. Qu'est-ce que la fiction viendrait éclairer de cette vie-là, Violaine Huysmans? Comment est-ce que vous avez envisagé cette transformation?
Je pense qu'un personnage, quand il devient un personnage littéraire, s'inscrit dans la littérature. Donc effectivement, la maman de mon roman communique avec la maman de Proust et la maman de Romain Gary. Donc c'est presque comme si vous entriez de plein pied dans un autre domaine. Donc c'est plus maman dans la vraie vie, c'est maman dans la littérature. Et de fait, elle peut communiquer avec ces autres personnages. Mais après, je pense aussi que dans la vie, il y a un phénomène qui se passe quand on devient mère. Un peu de mise en scène, vous êtes toujours un peu en scène pour vos enfants. Et de regarder maman, enfant, c'est déjà un peu d'écrire le roman de maman.
Donc c'est toutes les fonctions symboliques, toutes les représentations qu'on a de la mer, avec lesquelles vous vous amusez beaucoup. Vous vous amusez beaucoup notamment en transgressant sans cesse, à travers les descriptions, ce rôle, cette attribution de la mère parfaite, et qui ne correspond pas du tout à votre mère, qui est très parfaite sous certains aspects, très belle, très justement démonstrative d'une certaine manière, qui est flamboyante, mais qui ne correspond en rien à la mère que décrit justement la société qui l'entoure.
Oui, tout à fait. Après, il y a des psychologues qui disent que une mère, pour être suffisamment bonne,
c'est Winnicott,
qu'il faut juste qu'elle soit aimante avec ses enfants. Il faut juste qu'elle soit là et qu'elle soit aimante. Et ça, je pense qu'elle l'a été. Et je pense que le portrait que j'en dresse raconte ses maladresses et ses extravagances, mais avec beaucoup d'affection et d'amour. Parce que c'est ça qu'elle nous a transmis aussi, à moi et ma sœur.
Il y a Chantal Akerman, la cinéaste, qui, dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture, en novembre 2013, a parlé de son livre « Ma mère rit » et de cette mère compliquée. On va l'écouter en témoigner.
Moi, j'ai toujours cru prendre la parole pour elle. Mais parfois, je me demande si c'est pas contre elle ou au milieu d'elle. Enfin, c'est compliqué. J'ai mis 20 ans d'analyse, mais j'ai jamais compris. Mais ça fluctuait. C'est pas simple. Ni l'amour, ni pas l'amour, ni rien du tout. On n'y comprend rien. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une phrase géniale dans la Bible. C'est que tu ne dois pas aimer tes parents, mais tu dois les respecter. Et ça, je trouve ça génial. Parce que le respect, c'est pas dans la névrose. Et l'amour, on sait pas où c'est. L'amour a induit un tas de trucs. Le respect, non. Le respect, c'est magnifique comme notion. Enfin, moi, je trouve.
Violaine Huysmans, l'amour, on ne sait pas trop où c'est. D'ailleurs, l'amour, il se balade dans votre roman. Il se balade aussi au gré des mouvements, des crises qu'elle peut traverser, mais il est toujours là. Mais parfois, il se retourne.
Oui, tout à fait. J'adore cet entretien de Chantal Akerman. C'est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé son livre aussi sur sa mère. Je l'ai trouvé très émouvant. Est très juste. Et oui, l'amour se balade. Et le roman que j'ai écrit, c'est aussi vraiment un roman d'amour, une lettre d'amour à ma mère, mais c'est aussi le livre d'une femme amoureuse. Je pense que le personnage de Catherine, par la suite, dans la deuxième partie du livre, se manifeste surtout par sa qualité de femme amoureuse. C'est une enfant qui a beaucoup manqué d'amour au début de sa vie et qui, par la suite, en a débordé. Et dans tous les sens, elle a généré beaucoup d'amour pour elle, mais elle l'a distribué à foison aussi. Et je pense qu'il y a aussi, dans le contexte de Chantal Akerman, le rapport à l'homosexualité qui était aussi quelque chose qui a défini la vie amoureuse de ma mère, qui était quelqu'un qui a aimé à la fois des hommes et des femmes, et qui transforme un peu, j'imagine, le rapport à la mère.
Alors il y a justement dans votre livre, vous parliez de la première partie, on est du côté de la narratrice, enfant. Et dans la deuxième partie, on revient en arrière depuis la naissance de cette mère Catherine. Et on essaie de comprendre ce qui a pu se passer avant. Alors c'est une autre forme de restitution puisque c'est plus la mémoire de la narratrice ni la mémoire de l'auteur. C'est encore en amont.
Oui.
Là c'est de la fiction qui vient combler les manques.
Oui, tout à fait. Donc en fait, là, c'est vraiment le passage au romanesque pur, d'une certaine façon. Après, c'est toujours quand même inscrit dans des éléments du réel. Mais c'est un peu aussi, j'imagine, pour moi, une façon de me mettre en scène en tant qu'écrivain, de prendre la plume de l'écrivain et de raconter la biographie de Catherine, donc que je présente à travers son prénom. Après l'avoir présentée en tant que maman pendant toute la première partie du livre, qui est aussi une façon de dire que pour l'enfant, maman n'est que maman. Elle n'a presque pas de prénom, même si les enfants connaissent souvent les prénoms de leurs parents. C'est pas comme ça qu'ils s'adressent à eux. Et la personne qui était Catherine, quand moi c'était ma maman, je la connaissais pas en fait. Et donc de raconter sa vie à la troisième personne, c'était une façon aussi de prendre... de poser sur elle un autre regard, un regard complètement extérieur qui n'est plus celui de moi enfant, mais celui de femme à femme ou d'auteur à personnage.
Alors au-delà du point de vue, il y a la forme, et dans la forme, on a le sentiment d'entendre cette voix, la voix de l'enfant qui entend les mots qui lui sont rapportés, qu'il ne comprend pas toujours, les insultes. Il y a ces écarts de style très forts que vous faites, justement avec ce vocabulaire très vert qui sort aussi de la bouche de cette mère, parfois un peu délurée, parfois un peu alcoolisée, et c'est comme des mots reçus, comme ça, qui nous parviennent aux oreilles de l'enfant.
Oui, tout à fait. Et c'était son discours à elle qui était extrêmement haut en couleur, effectivement, comme elle, et flamboyant et toujours plein de mots crus, sentis en tout cas. Et j'ai voulu rendre compte de son vocabulaire à elle aussi et de sa langue. Et c'est pas juste une question de lexique, c'est vraiment toute la syntaxe de son discours qui était complètement folle et que j'ai voulu présenter dans une forme littéraire en fait et je pense que cette voix là elle intervient assez peu en littérature, on la rencontre assez rarement et je la trouve extrêmement riche et extrêmement poétique aussi.
Alors justement, il y a eu plusieurs projets avant de faire ce livre. Ce livre, vous l'avez commencé il y a très longtemps. Finalement, il a abouti ces dernières années. Il y avait, je crois, le projet d'un monologue.
Oui, tout à fait. En fait, j'avais commencé par écrire ce livre sous forme de monologue. Peut-être un monologue de théâtre, j'étais pas sûre. Mais c'était uniquement dans sa voix à elle.
Comme le Hilda de Marie Ndiaye, justement dans un souffle.
Oui, exactement. Et en fait, c'était donc une voix très criarde qui commençait exactement au même moment que commence le roman Fugitive par Skeren.
En 1989,
à l'hôpital Sainte-Anne, mais dans sa voix à elle. Donc là, Fugitive par Skeren commence dans le regard de l'enfant dont la mère est à Sainte-Anne. Et là, le texte que j'avais écrit commençait à l'hôpital dans sa voix à elle et elle racontait où elle en était, comment elle en était arrivée là. Et sa voix, elle, je crois, était... extrêmement dru et difficile à... C'était difficile de rentrer dans cette voie, j'imagine, sans avoir du tout de contrepoint. Donc en réécrivant le livre, j'ai essayé de la présenter parfois au discours indirect libre, parfois comme ça, directement, mais avec le contrepoint, effectivement, de la voix de la narratrice qui permet de donner un peu de contexte et je pense la rend plus digeste. Éventuellement.
Alors la troisième partie, c'est le point de vue de la femme, de l'auteur adulte, sur sa mère. Donc c'est comme si on traversait, il y a une sorte d'odyssée dans le temps, Violaine Huysmans, qui est peut-être aussi ce travail que permet le travail d'écriture, à savoir de retraverser toute cette époque, et peu importe si on s'éloigne, peu importe la place du réel là-dedans, ce qui compte, c'est qu'il y a une forme de boucle qui se fasse.
Tout à fait, oui. Et puis, je vais reprendre ce que vous avez dit au début de l'émission. Je pense qu'il y a une forme de renaissance aussi. C'est comme si l'histoire recommençait et que moi, je pouvais renaître en tant qu'écrivain et qu'elle pouvait renaître en tant que personnage. Et donc, c'est comme si, en fait, quelque part, on prenait naissance ensemble à nouveau. Je lui donnais naissance et elle me redonnait naissance.
Alors, il y a l'acte littéraire. On comprend dans ce récit que l'art est très présent, il y a une dynastie de danseuses dans cette famille-là, la grand-mère, la mère, la fille, et finalement un art qui vient contrebalancer, en tout cas en contrepoids d'une vie très difficile, puisqu'elles ont chacune souffert, chacune d'ailleurs en fonction de leur époque aussi, hein, époque où il est interdit d'avorter, où il est impossible justement de se séparer pour des raisons... Voilà, enfin, il y a tout un contexte historique en arrière-fond, et il y a l'art qui les rend heureuses.
Qui les rend heureuses et malheureuses.
Et malheureuses.
Et malheureuses. Oui, effectivement, c'est donc la mère de ma mère aurait souhaité être danseuse et transmet cette passion à sa fille, ou lui impose plutôt. Et il y a effectivement là cette grâce et cette beauté de la danse classique. Et en même temps, sa difficulté, je pense que c'est un art qui est extrêmement pénible et une souffrance extrême pour le corps. Et ça, je trouve que c'est une assez belle métaphore aussi de la vie de cette femme.
Et de la vie et du regard social que l'on porte sur elle. Il y a à travers elle donc une époque qui se passe, hein, celle de l'après-guerre, justement, que l'on revisite aussi à travers elle, à travers une drôle d'ascension sociale, puisqu'il y en a une quand même par le mariage, et en même temps une ascension sociale qui cache une misère affective, relationnelle, importante.
Oui, il y a cette ascension sociale, et comme vous l'avez dit, il y a aussi plusieurs générations qui sont présentées, ou en tout cas toute une époque de l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 90, et une vraie transformation de la société, et en particulier du rôle de la femme dans la société.
Et des libertés, des droits.
Une vraie émancipation, de liberté des droits, le droit d'avorter, le droit d'être femme en même temps que mère, et cependant, ça continue d'être compliqué.
Alors, est-ce que là, vous avez voulu renouer aussi avec vos lectures, avec tout un pan de la littérature classique, avec Thomas Mann, les Buddenbrook, tous ces romans qui sont aussi des fresques d'une évolution sociale qui a été extrêmement forte et rapide dans cette deuxième partie du XXe siècle, l'émoussement?
Oui, tout à fait, oui, j'ai... Et Stefan Zweig, beaucoup, était un auteur que j'ai beaucoup lu et qui a beaucoup informé le texte, aussi parce que c'était un auteur qu'elle affectionnait particulièrement, ma mère. Et oui, il y a eu d'autres lectures aussi, des œuvres un peu plus insolites, mais dans lesquelles j'ai pioché un peu des phrases. Parfois, il y a beaucoup de phrases qui sont empruntées dans le texte et que j'ai pas citées, parce qu'il y a aucune guillemets dans le texte, même quand les personnages parlent. Ils parlent sans guillemets parce que, à beaucoup de moments, en fait, dans leur voix intervient au milieu d'une phrase qui est une phrase de narration. Et je voulais qu'on entende les voix sans nécessairement les pointer du doigt. Et j'ai fait un peu pareil avec les citations, en fait, parce que j'avais pas envie tellement de les citer du doigt, de les faire remarquer. Et de couper le texte. Donc elles interviennent souvent au milieu de la narration, mais il y a des phrases de plein de gens.
Alors c'est un travail très polyphonique, puisqu'au fur et à mesure, plusieurs voix se manifestent, mais parfois ce sont des phénomènes d'écho. Alors, par exemple, on connaît le père par la mère, souvent, ou par la fille. On connaît parfois les personnages à une ou deux poignées de main, mais toujours par la voix, par la manière dont on parle d'eux.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, c'est intéressant que vous disiez ça. J'y aurais pas pensé comme ça, mais c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de jeux de regard et de jeux d'écoute, où si on les entend, on les entend parce que quelqu'un les écoute. Et je trouve que c'est effectivement, c'est intéressant, parce que c'est la façon dont on connaît les gens dans la vraie vie aussi. On les connaît parce qu'on est dans la même pièce qu'eux, ou parce qu'on les entend.
Alors on voit que la mère, pour la narratrice, n'est pas du tout la même mère dans le regard de son autre fille, par exemple. Il y a la question aussi de ce que fait la littérature, de la fonction familiale de la littérature. La mère elle-même, elle a essayé d'écrire un grand poème qui a été publié dans la vraie vie. Violaine Huisman, peut-être vous pouvez nous raconter cette histoire.
Oui, elle a publié un livre quand j'avais 13 ou 14 ans qui s'appelait « Saxifrage ». Elle a choisi ce titre parce que c'est le nom d'une plante qui perce la pierre pour vivre, et ça lui semblait une métaphore appropriée pour se décrire elle-même. Et c'est un long poème, effectivement, qui fait le récit de sa vie sous forme de calligramme, donc c'est des poèmes visuels. Ensuite, il y a une partie du texte qui est en poème en prose. Et c'est un texte très original, très expérimental, dans lequel elle prend vraiment une voie littéraire, ce qui, moi, m'a intéressée, parce que moi, ce qui m'a intéressée chez elle d'un point de vue littéraire, c'est sa voix à elle, la vraie, pas sa voix littéraire.
Donc celle que vous aviez gardée dans l'oreille?
Celle que j'avais gardée dans l'oreille, qui pour moi me rappelait Georges Bataille, qui me rappelait des personnages de Beckett, et que je trouvais infiniment intéressante. Et elle a choisi de se départir de cette voix et d'emprunter une voix beaucoup plus littéraire, qui par ailleurs est très intéressante aussi. Et dans ce texte qu'elle a publié, elle a publié deux poèmes à la fin du livre dont elle dit, là pour le coup de manière très fictionnelle, qu'elle a reçu ses poèmes à Sainte-Anne. Donc déjà la mise en scène de son personnage à Sainte-Anne venait d'elle. Et elle dit qu'elle a reçu ses poèmes et que ces poèmes ont été le déclencheur qui lui ont permis de sortir de la maladie et de revenir à la vie. Et ils lui ont donné ce sursaut de vie. Et donc l'un de ces poèmes est de moi, je l'ai effectivement écrit quand j'avais 10 ans. Et en fait, c'était très compliqué qu'elle publie ce poème et qu'elle lui attribue ses fonctions chimériques, enfin vraiment symboliques, d'une force époustouflante. Et je crois que l'exercice de ce livre aussi, de l'écriture de Fugitif par Skeuren, était une façon de me réapproprier ce poème et de pouvoir le reprendre à mon propre compte.
Alors c'est ce qui se passe régulièrement dans l'écriture, mais là on arrive au paroxysme de l'exercice, à savoir sur les traces de ce passé-là, il y a quelque chose à reconstituer, mais aussi à tracer de manière peut-être un peu stable dans le papier. Et on retrouve au début du roman, on se dit « Ouh là là, il y a une grosse dimension analytique, il y a même des emprunts à la psychanalyse directe, peut-être qu'on va arriver dans un travail finalement qui va expliquer ce qu'il est en train de faire, et pas du tout. » En réalité, la fiction vient embarquer tous ces personnages-là et les emmener dans une dimension tout à fait autre qui n'est pas analysée par le narrateur.
Oui, et c'est vrai, et je trouvais qu'il y a presque une valeur historique au texte, si vous voulez, dans la mesure où effectivement de mettre quelque chose en mots et de le publier, c'est une façon de présenter une version de l'histoire qui soit... sinon définitive, au moins semi-définitive, là définitive pour cette publication en tout cas. Donc ça fixe aussi les récits qui ont été dits, ça fixe l'oralité de la vie de façon plus stable.
Alors ce que permet la forme, et là il y a une grande virtuosité, Violaine Huysmans, dans votre travail, c'est de finalement redonner à ce vocabulaire, à cette manière de parler que vous avez retrouvé chez votre mère, quelque chose d'artistique et de littéraire, faire de cette forme de folie, de ce qui est vu comme une folie sociale, un foyer complètement poétique.
Oui, moi je trouve que cette langue est infiniment poétique et aussi la langue d'une manière générale, les langues, la façon dont on parle, je trouve que c'est extrêmement poétique si vous le regardez d'une autre façon et quand vous le détournez de sa fonction habituelle, donc quotidienne, et que vous faites intervenir le discours dans un roman qui vous propose un contexte différent, il y a aussi cette poésie des voix, de la multiplicité des langues, des façons de parler, qui, je trouve, sont extrêmement littéraires et très intéressantes aussi pour, avec la distance du temps et la distance du regard, on peut les lire complètement autrement.
Alors, il y a aussi cette manière de jouer aussi d'un vocabulaire grossier, d'un vocabulaire qui part dans tous les sens, qui est attisé aussi par le contexte et les crises et les colères, et de sortir finalement du pathos pour nous emmener sur un théâtre qui est presque burlesque, Violaine Huysmans, dont on se délecte un peu, même si parfois on a un peu honte d'en rire.
Oui, et je pense que ce que je voulais traduire aussi, c'était cette drôlerie-là et cet humour avec lequel elle vivait sa vie, ou en tout cas avec lequel on a grandi, ma sœur et moi. On avait souvent l'impression d'être dans une comédie, que c'était les portes claquaient, on était dans du vaudeville en fait. Et c'est effectivement, je voulais aussi rendre compte de ça, de cette drôlerie, des scènes et parfois extrêmes, mais qui peuvent en devenir drôles si, avec un peu de distance et en retrouvant le sens de l'humour.
Finalement, le lecteur au début se met un peu du côté de la souffrance de la petite fille qui a vécu dans cet univers un peu particulier, et au fur et à mesure se met à aimer et même à adorer cette mère un peu étrange, Violaine Huysmans. Est-ce que c'était l'idée pour vous que de réécrire un peu son histoire, en tout cas du point de vue de l'amour que vous lui avez porté?
Oui, tout à fait. C'était tout à fait l'idée. Et surtout, je ne voulais pas du tout quelque chose de pathétique où il ne s'agissait pas de parler des victimes, des enfants comme étant victimes de cette mère. Pas du tout. Au contraire...
Elles le sont aussi parfois.
Elles le sont aussi parfois,
mais pas uniquement.
Mais c'est voilà, comme ça fait partie des choses de la vie et parfois des difficultés de la vie. D'autres gens vivent d'autres choses difficiles. Là, en l'occurrence, c'était son portrait à elle en tant que mère que je voulais dresser. Donc, il fallait raconter ce qui s'est passé, mais sans pour autant donner l'impression que c'était des enfants martyrs.
Et d'ailleurs, l'intime a une forme de drôlerie aussi, puisque tout est dit. Il n'y a pas de tabou. Le corps, la sexualité, les scènes prises par surprise, le voyeurisme, tout est raconté.
Oui, et en fait, je voulais aussi parler des choses intimes liées au fait d'être femme qui, je trouve, interviennent assez peu en littérature. Je pourrais citer beaucoup de livres d'hommes qui racontent le corps, l'intimité, la sexualité. Et assez peu chez les femmes. Par exemple, juste la description d'un sexe de femme, vous ne le lisez pas beaucoup en littérature. Alors que...
Surtout celui de sa mère.
Surtout celui de sa mère, alors que L'âge d'homme de Michel Léris ou les livres de Carlo Vecnosgard plus récemment parlent de ça en toute liberté et ça semble assez inscrit en littérature aujourd'hui.
Et il fallait donc le faire. Merci Violaine Huysmans d'avoir été parmi nous. Votre premier roman, Fugitive, parce que Rennes, est à retrouver en librairie. Il est publié aux éditions Gallimard. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane-Viudès, Anna-Livia Marchaison, à la réalisation Nicolas Berger, à la technique Emmanuel Morstincan.